Eh bien, bonjour. Que le Seigneur nous communique ce matin de sa part une quelconque parole qui nous réjouisse, qui nous fasse du bien, qui puisse nous parler ce matin à travers l'étude de sa parole. Et le titre de ma prédication ce matin reprend l'interrogation, un verset de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 9, verset 14. Et l'apôtre Paul pose cette question. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l'injustice en Dieu ? Certes, non, loin de là. Mais qui n'a jamais une fois dans sa vie soupçonné, voire accusé Dieu d'être injuste ? Dieu est-il équitable ? Est-il juste quand on voit tout ce qui se passe autour de nous ? Pourquoi des gens vivent dans des maisons luxueuses alors que d'autres n'ont pas de toit ? Pourquoi certains enfants sont obligés de travailler au lieu d'aller à l'école et d'autres se plaignent de devoir se lever chaque matin pour aller en cours? Pourquoi des nations subissent la guerre, pleurent leurs familles alors qu'elles n'ont rien demandé? Pourquoi certains naissent dans la misère et d'autres dans la luxure? Pourquoi les uns meurent de trop manger et les autres de pas assez manger? Pourquoi il y en a qui meurent à 5 ans et d'autres à 100 ans? Pourquoi certains sont riches, respectés, en bonne santé, alors que d'autres sont pauvres, abandonnés, malades? Et pourquoi ceux qui font le bien ne sont pas ceux que le destin récompense souvent le plus? Ce n'est pas juste, dirons-nous. On a même parfois l'impression que les méchants prospèrent et évoluent, pendant que les bons, les gentils, eh ben, eux, souffrent et s'appauvrissent davantage. Et devant tant d'injustices, la justice de Dieu est fortement ébranlée. Devant tant d'injustices, la justice de Dieu est mise en doute. Et donc l'apôtre Paul, déjà, posait cette question en Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Et beaucoup répondront sans hésiter par l'affirmatif « Oui, comment un Dieu plein d'amour et de pouvoir peut-il laisser s'opérer de si grandes injustices devant ses yeux sans intervenir ?» Et d'autres bien-pensants diront « Bien sûr que non, Dieu n'est pas injuste. S'il était, il ne serait pas Dieu. » Sous-entendu, la justice est un trait caractéristique essentiel chez Dieu. Et il encourage d'ailleurs nous, chrétiens, et tout le monde, tout homme, à la pratiquer, cette justice. Le style de cette lettre de Paul adressée aux chrétiens de l'Église de Rome est sous forme de questions-réponses. Si vous lisez cet épître, vous verrez énormément de questions que l'apôtre Paul. Ce sont des questions de rhétorique, parce que tout de suite derrière, il a la réponse et il répond. Et donc, c'est une forme de question-réponse avec une progression logique dans son raisonnement. Et pour ces dernières prédications là, qui arrivent, nous avons retenu, donc pour cette série de quatre prédications suivies, quatre questions parmi les nombreuses questions que l'apôtre Paul pose dans l'Épître aux Romains. Donc la première question était la suivante. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? C'est Jérémie qui en a traité la semaine dernière. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Et le résumé de cette prédication, c'est que la grâce n'est pas un permis de péché. La deuxième question que nous allons traiter ce matin, donc, se trouve en Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Et la troisième question que Stéphane traitera la semaine prochaine est la suivante. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Donc Stéphane nous enseignera sur la pertinence et le rôle de la loi et sa raison d'être. Et la quatrième question que Benjamin traitera le 22 juin est la suivante, posée en Romains chapitre 10, verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Je vous invite à lire Romains chapitre 9, versets 14 à 26. Romains chapitre 9, versets 14 à 26. je lis dans la version seconde. Romains 9, 14 jusqu'à 26. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. J'arrête là la lecture. Et donc, à la question que pose l'apôtre Paul, y a-t-il de l'injustice en Dieu ? L'apôtre Paul tranche, court, et il répond, loin de là, certes non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. C'est un thème qui demanderait des heures de débat, et dans la demi-heure dont je dispose, je me limiterai volontairement, donc je me contenterai de reprendre des arguments de l'apôtre Paul ici, dans ce chapitre, sans m'en détourner, sans aller chercher ailleurs, parce que ce serait vraiment trop long, et je n'ai pas cette prétention de pouvoir répondre à toute cette grande question, Dieu est-il injuste ? Donc, ce qui a généré cette question chez l'apôtre ici, c'est cette vieille histoire entre Jacob et Ésaü. Si on lit le contexte, donc avant le chapitre 13, on verra qu'il y a, une question qui est posée, enfin, un débat sur cette vieille histoire entre Jacob et Ésaü qui fait référence donc à la bénédiction volée du plus jeune frère à son frère aîné. Souvenez-vous, Jacob a trompé son vieux père sous un déguisement, avec des mensonges. Il a destitué son frère Ésaü, il lui a usurpé son droit d'aînesse, et il s'est accaparé la bénédiction de la lignée d'Israël. Et tout ça avec le consentement, apparemment, voire la bénédiction de l'Éternel. Et donc, c'est suite à ça que l'apôtre Paul pose cette question, est-ce qu'il y a de l'injustice chez Dieu ? Le plus grand sera assujetti au plus jeune, annoncera l'Éternel à Rebecca en Genèse, hein, alors qu'elle était encore enceinte de ses deux fils jumeaux, Jacob et Ésaü. Et le prophète Michée, un peu plus loin, donc quelques siècles après, ira même jusqu'à faire dire par la bouche de Dieu, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. On retrouve ce verset dans Romains ici, au verset 13. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La bonne version, la bonne traduction serait, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Et ainsi, donc, le malicieux, le fourbe, l'usurpateur Jacob, c'est lui qui est valorisé, qui est désigné, qui est mis en avant, qui est retenu, qui est choisi pour être le fils de la promesse, le père d'Israël. De cet être retors, Dieu suscitera un peuple qui sera le sien, une nation élue de laquelle naîtra le Messie, le Christ, Jésus. Et Dieu semble complice dans cette injustice, entre guillemets. Il n'y a pas de réponse simple et catégorique, absolue à cette réponse, Dieu est-il injuste ? La difficulté, c'est que nous sommes face à un Dieu souverain. Un Dieu qui pratique sa libre volonté. Et nous, humains, créés, limités, pouvons-nous saisir toute la notion de la justice divine ? Dieu avait fait un choix souverain à l'égard donc des fils d'Abraham et d'Isaac concernant la progéniture de la future nation d'Israël. D'abord, donc, il avait choisi Isaac et mis de côté Ismaël, pourtant tous deux fils d'Abraham. Et ensuite, il sélectionne Jacob et met de côté, et il désavoue donc Ésaü, tous deux fils d'Isaac. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu agit ainsi ? Pourquoi il défavorise l'un et met en avant l'autre ? J'ai envie de répondre, Dieu seul le sait. C'est ainsi, mais ce n'est pas du fatalisme. Ce n'est pas du fatalisme, ni un coup du hasard, ni un coup du sort. Le raisonnement de l'apôtre Paul, son argumentation, sont les suivants. Voilà ce qu'il dit en gros. Dieu a une volonté propre, Dieu est souverain. Il exerce librement cette souveraineté, cette volonté, selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. Et si sa justice est mise en cause, la justesse de sa justice est toujours démontrée in fine, en fin de compte. Et il termine donc avec cette image que Dieu est comparé à un potier, et nous sommes de l'argile, nous sommes façonnés selon la volonté du potier. Et donc cet exemple d'adoption par Dieu, donc que Dieu adopte Isaac et Jacob, et seulement cet exemple-là est seulement destiné à souligner la souveraineté lorsqu'il s'agit de l'accomplissement du plan de Dieu. La souveraineté de Dieu est une notion majeure que nous, chrétiens, nous devons intégrer dans nos cœurs et accepter. La souveraineté de Dieu, nous devons l'accepter, l'intégrer, la recevoir, la croire. Il s'agit quand même du Dieu absolu et parfait, du Dieu merveilleux, infaillible, sans faille. Il est question, en parlant de la souveraineté de Dieu, de toute sa puissance, de son autorité, de sa domination, de sa supériorité, de sa sagesse, de sa préscience, et aussi de sa justice, même si nous la mettons en doute. Cette position de suprématie absolue s'étend chez Dieu sans concurrence. Dieu n'a pas de concurrent dans ce domaine-là. Sa suprématie se manifeste dans ses plans, dans ses desseins, elle se concrétise selon sa volonté. Que de fois cette même volonté est contestée. Nous voudrions souvent donner des leçons à Dieu. Dieu est-il injuste ? Combien souvent sommes-nous lents à admettre qu'il a tout pouvoir, il a le droit de faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît, et qu'en réalité il est le seul, l'unique, à posséder un tel droit, parce que lui seul est parfait, en préconnaissance, en sagesse, en amour, en justice. Et les choses nous paraissent parfois inexplicables, mais cela tient alors à notre imperfection et à notre statut d'homme créé, limité. L'Ecclésiaste dira, au chapitre 3, verset 11, que l'Éternel fait toute chose bonne en son temps, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait toute chose bonne en son temps, même si l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Et le principe de la souveraineté divine, énoncé par l'apôtre Paul ici aux Romains, peut se manifester sous une forme meilleure comme sous une forme pire. Je m'explique. Dans les deux exemples cités ici avec Moïse et Pharaon, la première action de la souveraineté de Dieu est favorable en faveur de Moïse. C'est la grâce. Et la deuxième action de la souveraineté de Dieu envers le pharaon égyptien qui lui résiste, cette souveraineté est défavorable. Et c'est la colère de Dieu. Donc souveraineté. Dans la souveraineté, il y a aussi la grâce et la colère de Dieu. La souveraineté de Dieu est le premier et le fondement de tous ses droits, favorables ou défavorables, grâce ou colère. Et si Dieu n'est pas souverain, qu'est-il ? Qu'est-ce qu'il est ? Comment serait-il Dieu en n'étant pas souverain ? Et donc, quand on parle de la justice de Dieu, mettre bien en avant que Dieu règne, Dieu est maître, Dieu domine, Dieu est souverain. Si nous disons qu'il y a en Dieu de l'injustice, il nous faut avant tout être capable de mesurer cette injustice. Nous disons que Dieu est injuste, mais savons-nous dire en quoi il est injuste ? Sur quelle base ? Injuste par rapport à quoi ? Injuste par rapport à qui ? Comment définir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas ? Quels sont mes critères, mes normes pour déterminer la justice et de ce fait donc l'injustice ? Ce qui peut paraître injuste vu d'ici-bas, depuis la terre, peut être juste vu du ciel, au regard de Dieu, et vice-versa. Ce que nous considérons d'injuste, Dieu le voit juste. Ce que nous pouvons voir juste, Dieu peut le voir injuste. Il nous est difficile de définir, de constituer objectivement un code de justice. Mais traiter Dieu d'injuste est une grande injustice. Traiter Dieu d'injuste est une grande injustice parce que si notre Dieu, si notre Père avait exercé froidement sa justice, sans sa souveraineté miséricordieuse, aucun d'entre nous serait là présent ce matin en train de louer et de remercier Dieu pour le salut et la vie éternelle gracieusement offerte en Jésus-Christ. Si Dieu avait été juste dans sa justice, il nous aurait terrassés. N'oublions pas que la justice de Dieu réclame réparation et dommage. La justice de Dieu réclame réparation et dommage, c'est-à-dire la mort que le salaire induit, que le péché induit, pardon, le salaire du péché, c'est la mort, dira l'apôtre Paul dans quelques chapitres plus tôt. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je crois que toute personne qui doute de l'amour et de la justice de Dieu, en fait, ne le connaissent pas, ou le connaissent mal ou très peu, car il n'y a pas d'être plus juste que notre Dieu, et sa justice n'est pas restreinte à celle des hommes. Donc, Dieu règne en toute autorité, et sa souveraineté s'exerce aussi bien dans la grâce que dans la colère, dans la compassion, que dans le rejet. Et en cela, il n'y a pas de justice. Ce n'est pas Dieu qui décide. Versets 15, 16 et 18 disent ceci : « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alors, à la lecture de ces versets-là, faut-il comprendre et y voir une injustice ? Faut-il comprendre et conclure hâtivement que, comme certains le pensent, que la destinée de chacun est inéluctablement scellée, arrêtée, écrite d'avance par Dieu de façon inconditionnelle et sélective ? Est-ce que c'est Dieu qui détermine qui sera sauvé ? Dieu aurait-il, avant la fondation du monde, choisi lesquels des hommes et des femmes seraient sauvés et lesquels seraient perdus, damnés, puisqu'il fait miséricorde à qui il veut ? Ceci est la thèse calviniste, selon laquelle, c'est les calvinistes qui pensent ceci, selon cette thèse, selon laquelle les sauvés par grâce, c'est-à-dire les bénéficiaires de la miséricorde divine, ne sont que des élus, des êtres choisis, prédestinés par Dieu, selon son bon vouloir, sans la moindre participation et le libre arbitre de l'homme. L'homme n'y est pour rien dans le salut que Dieu offre. Et d'ailleurs, toujours selon la doctrine calviniste, l'homme est dans un tel état de dépravation qu'il est incapable d'accepter le salut par son propre choix. Et Calvin, de son vivant, a eu tellement à lutter contre l'enseignement catholique du salut par les œuvres, que reconnaître un libre choix, une adhésion, un acte personnel de foi pour accéder au salut signifierait un salut par les œuvres. Si je me donne à Christ par la foi, c'est une œuvre. Et donc, selon Calvin, ce n'est pas juste. C'est Dieu qui décide. Donc, cela est-il juste ? Alors, les calvinistes utilisent un raisonnement pour prouver que leur doctrine de l'élection ne repose pas sur la justice de Dieu, mais sur la grâce. Et ils donnent cet exemple. Imaginons qu'un directeur de prison décide souverainement de libérer 3 prisonniers. Ce pardon est un bienfait accordé à ces 3 hommes. C'est une grâce qui ne lèse, en aucune manière les autres détenus. L'idée est qu'il n'y a là aucune injustice, car les autres prisonniers restés détenus sont détenus non à cause du non-pardon du directeur, mais à cause de leurs crimes commis. Et donc, à partir de là, ils disent que Dieu est de même, toute la race humaine donc est vouée à la perdition. Dieu, en choisissant de sauver souverainement un certain nombre d'individus sans aucun mérite de leur part, il ne lèse pas ceux qui laissent délibérément dans leur état de péché et de perdition. Autrement dit, si les trois prisonniers sont sauvés et que les autres restent, de toute manière, les autres sont voués à la condamnation, ils sont prisonniers de leurs crimes. Et la fragilité de ce raisonnement peut être vérifiée par cette autre remarque, cette autre réflexion. Dans un bateau de plaisance coule avec 10 personnes à son bord, et ces personnes se débattent dans les flots et sont sur le point de se noyer. Une équipe de sauveteurs, malgré les puissants moyens dont elle dispose, décide souverainement de n'en sauver que 4. Si on écoute la logique donc calviniste, on dirait les 10 étaient de toute façon voués à la mort. Et donc les 6 non sauvés n'ont pas été lésés dans ce sauvetage, des 4 autres. Méfions-nous des faux raisonnements employés pour soutenir un point de vue qui n'a pas de solide appui dans l'Écriture. Et c'est vrai que pris séparément et hors contexte, on pourrait effectivement comprendre ces versets 14, 15, 16 et 18, pris donc hors contexte, on pourrait effectivement comprendre qui vont dans ce sens. Mais tout le chapitre 9 pose le contexte et la base pour leur bonne compréhension. En fait, l'apôtre Paul, voici ce qu'il veut dire. En écrivant cette lettre à l'épître aux Romains, l'apôtre Paul s'adresse à des Juifs et argumente sur le moyen, le mode par lequel Dieu sauve. On peut lire dans le chapitre, au verset 30 et 32, que nous n'avons pas lu. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés comme la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, l'apôtre Paul argumente sur le moyen et le mode de salut par lequel Dieu sauve. Et il explique que les Juifs n'ont pas été sauvés en grand nombre parce qu'en tant que nation, ils cherchaient à être justes par la loi de Moïse, au lieu de mettre leur foi en Jésus-Christ. Et là, Paul défend le droit souverain que Dieu s'octroie. Donc Dieu s'octroie un droit qui est celui de choisir les modalités du salut. Et ce salut ne sera plus seulement le privilège des Juifs, descendants d'Abraham, mais celui des nations, des païens, des gentils, vous et moi, en d'autres termes, un salut étendu à tout le monde, non plus sur la base de la loi mosaïque, mais sur le fondement de la foi christique. Je fais miséricorde à qui je veux, même aux non-juifs. Il faut comprendre comme ça. Dieu s'autorise la liberté d'étendre l'accès au salut au-delà du peuple juif relativement hermétique à l'Évangile. Et donc rien à voir avec la confusion d'une préélection dont Dieu serait le seul décideur. Si tel était le cas, alors oui, ce serait une grande injustice de la part de Dieu, une injustice qui impliquerait la légitimité de sa divinité. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Certes non. Loin de là. Non, sa puissance et sa grâce ne sont pas limitées pour qu'il ne puisse sauver la race humaine entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement, le sacrifice de Christ a la capacité de sauver universellement. Christ a le pouvoir de sauver chacun des êtres humains ici-bas, de tous les temps. Et libre à chacun d'accepter et de recevoir ce pardon par la foi et d'entrer dans la vie éternelle, dans la famille de Dieu. Et nous savons que Dieu ne fait exception de personne, ce n'est pas Dieu qui décide qui il sauvera. Dieu ne fait exception de personne, et comme nous l'avons entendu dans une prière ce matin, il use de patience pour qu'un grand nombre parvienne au salut. Il use de patience, il attend encore que beaucoup s'ouvrent au salut par la foi. Le verset 20, il dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Sous-entendu, pourquoi, pour qui tu te prends pour traiter Dieu d'injuste ? Il faut rétablir les choses à leur place et à leur juste valeur. Nous, les contestateurs, sommes des êtres créés, façonnés, comparés à de l'argile malléable à souhait, selon la créativité du potier. Dieu est ce potier qui est maître de l'argile, avec lequel, de cette même matière, il fait des objets divers et variés. Certains sont beaux, certains sont coûteux, précieux, d'autres sont faits pour un usage courant, ordinaire, mais tout autant utile et apprécié. Et le triste constat que fait l'apôtre Paul, c'est que dans toute cette collection de créations, il y a des vases de colère destinés à la perdition et des vases de miséricorde qui connaîtront la richesse de la gloire divine. Mais encore une fois, ce n'est pas la décision de Dieu, même si sa préscience et sa préconnaissance lui ouvre la liste des sauvés et des perdus. Dieu sait d'avance, effectivement, les rachetés et ceux qui refuseront la grâce de Dieu. Mais il n'en est pas l'auteur. Et je termine. Certes, nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés et aux privilèges que réserve la vie à chacun, mais je suis profondément convaincu de la bonne justice de Dieu qui s'exerce équitablement selon ses plans. Justice que je ne saisis pas toujours parce qu'elle dépasse la compréhension limitée que je peux en avoir. Je crois aussi que la justice divine peut également se manifester paradoxalement dans son injustice, entre guillemets. Et j'avoue ne pas être plus éclairé à la fin de cette préparation sur la question de la justice et de l'injustice de Dieu. Mais je lui accorde ma pleine confiance dans ce domaine. Et ma perception de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas change parce que je regarde plus loin que le bout de mon nez. Je me projette au loin dans un avenir qui deviendra bientôt céleste pour moi. Et donc je vois la justice de Dieu sous ce plan-là et non pas sur le plan humain. Nous l'avons prié, nous l'avons chanté, nous l'avons dit, l'Éternel règne, il donne, il reprend, il bénit, il afflige, nous ne comprenons pas toujours, il fait ce qu'il veut, mais qu'en toute chose, le nom de l'Éternel soit béni et honoré. Amen.